On a changé un petit peu l'ordre du déroulement ce matin aussi parce que il me semblait, après avoir étudié le passage du jour, que le moment de la scène se prêtait plutôt bien à vivre après la prédication. Et vous comprendrez pourquoi quand on va parcourir notre passage. On continue ce matin notre survol du livre de l'Exode. Et il y a 15 jours, voilà, on avait vu les 9 premières plaies, et on va donc continuer dans Exode chapitre 12 et 13 ce matin. Avant cela, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous vous souvenez, ce qui s'est passé le 24 mars 2018. Un terroriste se retranche dans un supermarché avec plusieurs otages. Et ce jour-là, le colonel Arnaud Beltram propose volontairement au terroriste de prendre la place de la dernière otage, une jeune femme. Il se substitue donc à elle. Il rentre dans le supermarché et elle en sort. Arnaud Beltram subira ensuite une blessure mortelle du terroriste, lui-même abattu par la suite. C'est une histoire qui a ému toute la France. Son sacrifice, cet acte de bravoure qualifié d'héroïque, a suscité de nombreux hommages en France et partout dans le monde. Pourquoi ? Pourquoi cela ? Pourquoi aussi, dans une grande majorité de films qu'on peut regarder aujourd'hui, pourquoi est-ce que le héros se sacrifie et meurt pour sauver des vies ? Je pense qu'il y a un certain lien avec la 10e plaie d'Égypte. On a donc regardé la dernière fois, dans les chapitres 7 à 11 du livre d'Exode, 9 plaies, les 9 premières plaies que Dieu a envoyées sur l'Égypte et qui nous révèlent un Dieu unique, un Dieu créateur tout-puissant, un Dieu juge et un Dieu sauveur. 9 plaies. Il en reste une 10e. Et quand on pense déjà aux 9 premières, on peut se dire, mais pourquoi une 10e plaie ? Qu'est-ce que cette 10e plaie a de différent avec les 9 autres plaies ? Pourquoi est-ce que Dieu va mettre en place, va instituer ce repas de la Pâque ? Est-ce que pour le peuple de Dieu, avant de quitter l'Égypte, c'était juste l'occasion de faire encore un bon barbecue ? Au travers de cette 10e plaie, Dieu, et ça c'est un des éléments différents par rapport aux 9 autres, Dieu ne va pas agir par les éléments de la création, ni par l'intermédiaire d'un être humain, mais Dieu va venir lui-même pour exercer son jugement sur l'Égypte et ses divinités. Mais comme à chaque fois que Dieu exerce son jugement, il offre aussi et toujours un moyen pour y échapper. Et par ce moyen, Dieu veut faire de cette libération un événement mémorable qui va marquer à jamais l'histoire du peuple d'Israël et son identité. Je vous invite ce matin à faire la lecture. Alors, on ne va pas lire les 2 chapitres, mais chapitre 12, et on va lire les 13 premiers versets. Exode, chapitre 12, versets 1 à 13. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vous le considérerez comme le premier des mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, On prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à moitié cuit et bouilli dans l'eau. Au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien pour le matin. Si toutefois il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Jusqu'ici, c'était la lecture de la parole de Dieu. Dieu l'avait annoncé à Moïse et au Pharaon, cette dixième plaie sera décisive. Il vient pour juger l'Égypte et ses dieux afin de libérer son peuple. Et nous avons aussi ici, dans cette dixième plaie, la seule plaie où Dieu donne des instructions à son peuple pour s'y préparer. Et ces chapitres répondent à deux questions. Comment échapper à ce jugement et bénéficier de cette libération? Et la deuxième, comment vivre après cette libération? Comment bénéficier de cette libération? Le jugement de Dieu est prononcé. Tous les premiers-nés vont mourir, qu'il s'agisse des garçons ou des animaux. Et il y a quelque chose d'intéressant à voir dans ce jugement, c'est que les Israélites comme les Égyptiens sont autant concernés par ce jugement à venir de Dieu. Les Israélites ne sont pas meilleurs. Ils méritent tout autant la mort que les Égyptiens. Mais Dieu leur communique la manière d'éviter ce jugement. Il leur communique les instructions pour rester à l'abri de ce fléau de la mort. Ce moyen que Dieu donne, c'est la Pâque juive, la Pâque de l'Éternel. Un agneau doit être immolé, sacrifié. Son sang badigeonné sur les montants et les linteaux des portes de maison, puis sa viande consommée par les membres présents dans la maisonnée. Ce sacrifice révèle deux notions fondamentales quand on lit ces instructions que Dieu donne à son peuple concernant cette Pâque. La première, c'est qu'un agneau sans défaut devait être choisi, puis sacrifié. Sa taille devait correspondre au nombre de personnes présentes dans la maisonnée. C'était un agneau sur mesure, en quelque sorte. Et le rôle de cet agneau était celui-ci, mourir à la place des premiers-nés présents dans cette maisonnée, du premier-né de chaque famille. L'agneau prenait la place des premiers-nés, ce qu'on appelle la substitution. Personne d'autre dans cette maison ne mourrait si un agneau était mort. Deuxième notion dans ce repas de la Pâque qui nous amène à nous poser cette question, pourquoi est-ce que le peuple n'a pas juste badigeonné les montants et les linteaux de peinture rouge si Dieu avait besoin d'une indication visuelle d'une maison par laquelle, de laquelle il devait épargner? Ce n'était pas une question de couleur, mais le sang représente la vie. Cette nuit-là, quand Dieu a parcouru l'Égypte, à chaque maison où il a vu le sang sur la porte d'entrée, il savait qu'une vie avait déjà été donnée, une mort avait déjà eu lieu. Dieu, en arrivant, est donc satisfait et passe au-dessus de ses maisons. Exode 12, verset 13, Exode 12, verset 23. Le terme hébreu, passer au-dessus, c'est passa pesa, qui a donné Pâques et qui signifie passer par-dessus, sauter, épargner. Dieu a donc épargné les membres qui se trouvaient en sécurité, à l'abri, sous ce sang. Mais on ne pouvait pas se tromper. Au petit matin, dans chaque maison de l'Égypte, il y avait bien un mort, soit un enfant, soit un agneau. Mais ce récit nous laisse quand même avec une question, au moins une question. Est-ce que la vie d'un agneau remplace vraiment une vie humaine? La réponse est sous-entendue dans la question. Bien sûr que non. Cela nous laisse donc avec cette idée que quelque chose n'est pas terminé. Ce jugement de Dieu sur l'Égypte préfigure, annonce un autre jugement de Dieu qui nous amène à nous poser cette question. Lors de ce jugement, qui est-ce qui pourra subsister? Et là, on voit là toute la pédagogie de Dieu qui avait préparé depuis longtemps, depuis toute éternité, ce plan de salut, qui savait qu'un jour l'homme désobéirait. Et ce récit de la Pâque en Égypte est une leçon, un enseignement pour préparer son peuple au travers de toutes ces années à venir pour quelque chose de beaucoup plus grand qui va avoir lieu. Cet agneau de substitution pointe vers celui qui sera le véritable substitut, Jésus-Christ. Environ 1000 ans plus tard, Jean-Baptiste voit Jésus arriver et s'écrie « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. » Jean chapitre 1, verset 29. C'est l'apôtre Paul aussi qui parlera de Christ comme notre agneau pascal. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Le peuple de Dieu en Israël, en Égypte, devait choisir un agneau sans défaut. Exode 12, verset 5. L'apôtre Pierre, plus tard, parle et dit ceci, affirme qu'il a fallu que Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Autre fait super intéressant, à quel moment est-ce que Jésus va être sacrifié? juste après avoir partagé son dernier repas avec ses disciples, pendant, à quel moment ? Pendant la fête de la Pâque juive. Et lors de ce repas qu'on va prendre juste après, Jésus se présente comme le sacrifice par excellence. Il affirme à ses disciples, en parlant du pain, « Ceci est mon corps. » En parlant du vin, « Ceci représente mon sang. » Lors de cette nuit de Pâques, il est mentionné qu'aucun os de l'agneau ne devra être brisé. Exode chapitre 12, verset 46. Toujours l'apôtre Jean dira à propos de Christ, alors qu'il est sur la croix et que les jambes des deux malfaiteurs qui entourent Christ sont brisées, celles de Christ ne le sont pas. Pour nous, chrétiens, le sacrifice d'un agneau lors de cette nuit de la Pâque annonce et préfigure le sacrifice de Jésus-Christ. La mort substitutive du colonel Beltram a permis de prolonger la vie terrestre de cette femme. Mais la mort de cet homme ne peut en elle-même sauver personne de la mort spirituelle et du jugement à venir de Dieu. Je suis profondément convaincu que si la mort substitutive de ce colonel et toutes celles présentes dans les films hollywoodiens nous émeuvent autant, nous parlent, c'est parce qu'elles sont un petit écho, un petit reflet de la mort substitutive de Christ, bien plus importante et glorieuse, qui n'est pas mort pour une personne, mais pour des millions de personnes. Qui n'est pas mort pour une personne innocente, mais des coupables. Qui n'est pas mort pour nous éviter la mort physique, mais la mort spirituelle. Qui ne nous libère pas simplement de l'esclavage d'un tyran, mais de l'esclavage du péché, et dont les conséquences ne sont pas juste terrestres, mais spirituelles, pas juste temporaires, mais éternelles. Nous méritons tous de mourir à cause de notre rejet de Dieu, mais Jésus est notre agneau pascal. Il s'est volontairement offert pour mourir à notre place et subir pour nous ce jugement de Dieu. Si nous croyons cela, Dieu affirme dans sa parole que nous sommes alors en sécurité. Nous n'avons plus à craindre ce jugement à venir parce que le sang de Jésus est appliqué sur chacune de nos vies. Et quand Dieu jugera le monde, le moment venu, il passera au-dessus de nous. Il sera satisfait. Jésus, notre agneau sans défaut, est déjà mort pour nous. Une vie a déjà été donnée. Du sang innocent a déjà coulé. Ma question pour nous, ce matin, avons-nous reconnu notre besoin de Jésus, notre agneau pascal? Avez-vous mis votre confiance dans son sacrifice substitutif? Êtes-vous à l'abri ce matin? Ce repas de la Pâque ne nous parle pas seulement de la manière d'échapper à ce jugement et d'être au bénéfice de cette libération. Mais il nous dit aussi quelque chose sur la manière dont nous sommes appelés à vivre après cette libération. Lors de cette nuit de la Pâque, c'est donc la mort pour les uns et le salut pour tous ceux qui ont cru en l'Éternel et manifesté leur confiance, en badigeonnant leurs portes de sang, mais aussi en mangeant ce repas, habillés, chaussures aux pieds, ceinture à la taille, bâton en main, prêts à partir. Cette nuit-là, 600 000 hommes, et la Bible ne parle que des mâles, des garçons, donc ça fait environ 2 millions de personnes qui quittent l'Égypte. Un exode massif. Et on peut se poser cette question, qu'est-ce que ça change pour ce peuple d'Israël? Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Est-ce qu'ils vont continuer à fabriquer des briques? Est-ce qu'ils vont continuer à vivre dans la crainte des coups de fouet? Est-ce qu'ils vont se réveiller matin après matin en s'apprêtant à vivre les mêmes journées que celles qu'ils passaient en Égypte? Est-ce qu'ils vont continuer de vivre comme avant? Je crois que c'est peu dire que ce 24 mars 2018 restera gravé à jamais dans le calendrier de cette jeune femme. Une date présente dans son calendrier qui marque un tournant dans sa vie. Il y aura pour elle un avant le 24 mars et un après, comme un nouveau départ, comme une nouvelle vie qui commence pour elle. Et je crois que même si ce colonel est décédé, il est évident qu'elle n'oubliera jamais son nom et qu'elle lui sera certainement reconnaissante pour le restant de ses jours. Cette libération constitue aussi un tournant, et un tournant si marquant pour le peuple de Dieu que même son calendrier est impacté. Dieu ordonne, au début du chapitre 12, que ce mois de libération devienne le premier de l'année pour le peuple juif, signe d'un nouveau commencement, un nouveau départ. Une nouvelle vie commence pour le peuple d'Israël. C'est en quelque sorte une résurrection. C'est comme une nouvelle naissance pour le peuple de Dieu. Et dans Exode 13, en plus de la fête de la Pâque que Dieu institue, Dieu met aussi en place deux autres fêtes pour se souvenir de génération en génération de ce salut, de cette nuit-là qui a été un tournant pour le peuple d'Israël. Il y a d'abord la fête des pains sans levain, vous pourrez le lire au chapitre 13, qui rappelle ce départ rapide, raison pour laquelle la pâte n'a pas eu le temps de monter. Mais en fait, dans cette fête des pains sans levain, il y a plus que cela. Le levain, vous savez, c'était ce petit morceau prélevé sur la pâte précédente qu'on laissait fermenter et qu'on mettait dans la nouvelle pâte et qui faisait en quelque sorte une continuité entre la précédente pâte et la nouvelle et qui lui permettait de monter. L'absence de levain marque donc une rupture avec la pâte précédente. Il y a une rupture ici pour le peuple de Dieu entre sa vie comme esclave sous un tyran et sa nouvelle vie au service de son Rédempteur. Il y a un avant et il y a un après. Et puis, la deuxième fête, la consécration des premiers-nés. Je vous lis les deux premiers versets de Exode chapitre 13, versets 1 à 2. L'Éternel dit à Moïse, « Consacre-moi tout aîné, tout premier-né parmi les Israélites, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. » Le peuple d'Israël, dont Dieu en parle comme son premier-né, a changé de propriétaire cette nuit-là. Il n'appartient plus à ce pharaon oppresseur, il appartient à ce Dieu rédempteur. et la consécration future des premiers-nés à Dieu devait constamment rappeler à l'ensemble du peuple dans les années à venir qu'il avait été sauvé non pas pour faire ce qu'il voulait, mais pour appartenir à Dieu et pour le servir. C'était l'objectif de cette libération annoncée par Dieu au Pharaon. Dans Exode chapitre 8, verset 16, « Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. » Et quand Pharaon, cette nuit-là, il craque et qu'il lâche le peuple, il dit « Partez, allez servir votre Dieu. » Le terme pour servir est employé pour parler de travailler, d'adorer, de rendre un culte. Quand le peuple était esclave du Pharaon et construisait des briques, il travaillait pour Pharaon, c'est exactement le même terme qui est utilisé pour parler du peuple qui travaille pour Dieu, qui rend un culte à Dieu, qui adore Dieu. Exactement le même terme. Mais il y a un changement de propriétaire. La mort et la résurrection de Jésus nous rappellent que Dieu a donné son Fils unique, son premier, comme il nous l'a été rappelé ce matin, ce qu'il avait de plus cher pour racheter nos vies. Dieu nous aime. Dieu a tout donné pour nous. Et en retour, Dieu ne désire pas qu'on mette à part juste nos premiers-nés, comme cela a été pendant de longues années, cette tradition pour le peuple d'Israël. Mais Dieu désire toute notre vie. Et on ne s'est pas concerté avec Henri ce matin, dont l'introduction est tout à fait à propos et en lien avec ce point-là. Dieu mérite que nos vies entières lui soient consacrées, que toute notre vie soit service de Dieu, travail pour Dieu, adoration de Dieu. Ce n'est pas juste une vie pour Dieu le dimanche, mais toute la semaine. Ce n'est pas juste un temps pour Dieu quand on est rassemblé, mais toute la semaine quand on est dispersé. Est-ce que ma vie entière reflète ma reconnaissance à Dieu pour m'avoir à jamais libéré de cet esclavage du péché? Comment est-ce que ma vie témoigne que désormais j'appartiens à ce Dieu rédempteur? Comment mon implication au boulot, comment la gestion de mes finances, de mes loisirs, de mes différentes sphères de relations, comment mon service pour l'Église démontre que j'appartiens à Dieu? On peut prendre juste quelques éléments de cela. Le travail, par exemple. Et nous poser ces questions. Suis-je un collègue ou une collègue de confiance? Est-ce que je suis intègre dans mon travail? Qu'est-ce que je fais quand personne ne regarde ce que je fais? Comment est-ce que je cherche à bénir mes autres collaborateurs, mes clients, mes fournisseurs, mon supérieur hiérarchique? Nous avons récemment eu cette première partie de formation pour le travail. Et c'était vraiment chouette, vraiment encourageant de se replonger dans cette perspective du travail selon Dieu. Et je vous encourage fortement à participer à ce deuxième volet qui aura lieu le 15 novembre. Les finances, que reflète l'ensemble de mes dépenses sur mes priorités de vie? Une fois que j'ai mis de côté le nécessaire vital, quelle est la part que je dédie pour bénir les autres? Quelle est la part que je donne à mon église locale? Combien est-ce que je dédie chaque mois à la pratique de l'hospitalité? quelle part de ces finances est-ce que je consacre pour me former spirituellement, pour me former aussi professionnellement et devenir un employé ou une employée toujours plus compétente pour mon entreprise. Combien de mon argent est dédié à aider une ou plusieurs personnes, peut-être, dans le besoin ? Mes loisirs, quelle proportion de mon temps leur est dédiée dans ma semaine ? Quelle est mon attitude sur un terrain de sport ? Qu'est-ce que la liste des films que j'ai regardés le mois dernier reflète de ce qui a nourri mon âme ? Quelle proportion de mon budget est allouée à mes loisirs ? On pourrait continuer ainsi avec chaque sphère que j'ai évoquée plus tôt, mais on a l'idée. Est-ce que notre vie témoigne de notre joie d'être libéré et d'appartenir à Jésus-Christ ? Sommes-nous fiers de cela ? Ou est-ce que nous vivons encore comme nous étions, comme si nous étions encore esclaves du péché ? Je termine par ce verset de Exode chapitre 13, le verset 14. Lorsque vos enfants vous questionneront en vous demandant que signifie cela, à propos, pour remettre dans le contexte, à propos de la pratique de ces fêtes, les pains sans levain, la consécration des premiers-nés, que signifie cela ? Vous leur répondrez, c'est par sa puissance que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte où nous étions esclaves. Jésus s'est substitué à nous pour nous libérer de l'esclavage du péché et nous permettre de le servir et de l'adorer en servant et bénissant ceux qui nous entourent. Ma prière ce matin pour chacun de nous, c'est que le Seigneur agisse par son esprit pour que nos vies manifestent de façon toujours plus visible notre appartenance à Jésus-Christ. Et lorsque nos enfants ou tous ceux qui nous côtoient nous demanderont pourquoi est-ce que nous agissons ainsi, nous ayons le courage d'affirmer « J'agis ainsi parce que j'étais esclave du péché, mais Jésus m'en a libéré. » Amen.